With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai passé un week-end très étrange à suivre, comme beaucoup de journalistes et d'utilisateurs de Twitter, les révélations autour de la Ligue du LOL, ce groupe de journalistes, de communicants et de publicitaires réunis sur Facebook dans un cercle de discussion privée, d'où sont parties des attaques ciblées, de véritables campagnes de harcèlement contre d'autres usagers des réseaux sociaux, très souvent des femmes, moquées, humiliées, avec des conséquences très lourdes à la fois sur leur vie personnelle et professionnelle. Tout ça me touche à plusieurs niveaux. D'abord parce que ce sont des gens de ma génération que j'ai fréquentés dans les rédactions, avec lesquels j'ai pour partie des liens d'amitié. Certains sont intervenus d'ailleurs dans des podcasts de Binge Audio. Ensuite, forcément, je m'interroge sur ce que je n'ai pas vu, sur ce que je n'ai pas voulu voir et sur tout ce que ça doit nous dire de l'état d'esprit profondément toxique qui est encore à l'œuvre dans les salles de rédaction et dans tous les lieux de travail où les ressorts de groupe peuvent donner lieu à ces dérives. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, toute cette histoire va bien au-delà du petit milieu de la presse parisienne branchée, mais interroge tout simplement les aspects les plus sombres de nos modes de fonctionnement. Au-delà de ces questionnements, qui feront l'objet d'autres émissions dans un second temps, on a eu envie à chaud de raconter cette histoire, de remonter le fil de ce qui s'est joué point par point, comme une base à nos réflexions futures. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. S'il faut trouver un point de départ, on peut choisir le 5 février dernier, le message sur Twitter d'un journaliste, Thomas Messia, de Slate. Il écrit « Il est beau, le journaliste modèle qui joue les exemples après s'être bien amusé au sein de meutes de harceleurs de féministes, il est beau ». Pas de nom cité, mais certains se sentent visés, comme Alexandre Arvaux, journaliste à Libération, invité régulier de nos cinés à mes côtés, qui répond par un autre message affirmant avoir changé. Ça aurait pu en rester là, mais les choses s'accélèrent 3 jours plus tard, quand sort sur la plateforme Check News de Libération un article révélant l'existence du groupe La Ligue du LOL et citant quelques-uns de ses membres. Outre Alexandre Arvaux, donc Vincent Glade, également pigiste à Libération, fondateur du groupe en 2009, et Stéphane Desaulnois, créateur et rédacteur en chef du site Le Tac Parfait, consacré à la culture porno. Ils admettent leur participation au groupe, dont les activités de nuisance se font les plus fortes autour des années 2010-2012, mais ils le font sur l'air du « on était jeunes, c'était pour rire, on ne pensait pas faire du mal ». L'article a le mérite d'ouvrir le dossier, même s'il donne finalement plus la parole aux harceleurs qu'aux harcelés. Et ces dernières, car ce sont avant tout des femmes, ont encore peur de témoigner à visage découvert, peur des conséquences, que ça recommence. Mais le bruit autour du papier finit par libérer la parole, certaines victimes témoignent, voire reviennent sur Twitter alors qu'elles avaient quitté le réseau pour fuir les commentaires horribles qu'elles y ramassaient quotidiennement. C'est le cas de Mélanie Wanga, également collaboratrice de Binge Audio au sein du podcast Le Chip. Mélanie a accepté d'en discuter avec moi et de me raconter quelle forme prenait ce harcèlement à l'époque.
À l'époque, c'était pour moi personnellement surtout concentré entre 2011 et 2013. Et ça prenait la forme principalement de raids Twitter. C'est-à-dire que je postais quelque chose sur un sujet. Moi, je tweetais beaucoup sur le féminisme et sur l'antiracisme déjà à l'époque. Et donc, je postais quelque chose et là, j'avais... une dizaine, une quinzaine, parfois une vingtaine de mecs qui arrivent des trucs du genre. Généralement, toujours voué en fait à remettre en question ce que je disais, mais comme si j'étais une mauvaise journaliste, comme si mes sujets n'étaient pas intéressants et comme si ce que je disais c'était complètement débile et ça n'avait aucun intérêt et on voyait même pas pourquoi je parlais de ça. Je pense notamment à un moment sur la blackface. J'avais répondu à un journaliste qui disait que la blackface c'était pas raciste, que c'était un truc d'américain et qu'en France tout le monde s'en foutait, que c'était pas raciste. Auquel quoi j'avais répondu moi je pense que c'est raciste, il y a beaucoup d'études qui disent que c'est raciste et lui il avait dit bah oui mais moi je suis pas d'accord et j'avais dit ce serait peut-être aussi intéressant d'écouter les personnes de couleur qui parlent
qui se sentent visées du coup
voilà ouais. Et là j'ai commencé à avoir un raid de personnes qui me disent mais comment ça parce qu'on est blanc on peut pas parler de racisme, tu dis n'importe quoi et puis toujours sur le ton moqueur,
ouais.
qui est un peu la signature de la Ligue du LOL, destinée un peu à saper la confiance en soi et le moral, sachant qu'en fait, c'était effectivement des gens du milieu, donc c'était médias, communication, et c'était des gens que je connaissais plus ou moins de loin. Et c'est vrai que quand on vit ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, régulièrement, des petites vagues comme ça, bah en fait, ça sape la confiance en soi, ça sape l'idée en fait, que les sujets qui nous intéressent peuvent trouver écho. Le harcèlement de rue, ça n'existe pas, tu dis de la merde. La blackface, c'est pas raciste. L'apartheid, ça, c'était vraiment horrible, mais en France, il n'y a plus de racisme. Moi, c'était des thématiques qui m'intéressaient. Et c'est vrai que le fait de prendre des raids comme ça, et bah, au bout d'un moment, ça pousse à ne plus tweeter parce qu'on n'a plus trop envie que ça arrive. Et une autre forme que ça prenait aussi, c'était moi aussi, j'ai eu des commentaires soit injurieux, soit toujours bizarres, soit un peu dans le LOL sur mon blog avec l'IP de Libération. Donc c'est comme ça qu'on est remonté un peu à la source.
Ah, sur un des membres de la Ligue
du LOL. Un des membres de la Ligue du LOL
qui était
à Libération. Et effectivement, il a fait la même chose à plusieurs personnes qui ont témoigné, dont Lucille Bélan et Mathias Jean-Montpuyer. Et c'était ça. Donc en fait, c'était pas du harcèlement un jour je me lève et puis j'ai 2000 personnes qui me disent suicide-toi, mais c'était du harcèlement sur les compétences professionnelles et c'était très long. C'était pendant 2 ans non-stop. Et après, c'était des gens qu'on voyait à des soirées, de journalistes, des gens avec qui on était amené à peut-être travailler, parler, et il y avait toujours une peur. Je pense que les gens qui parlent de ce qu'ils ont vécu l'expriment très bien. En fait, ça développe à la fois un doute de ses compétences, mais aussi une peur. On se dit, bah, en fait, je pourrais jamais aller dans cette rédaction parce que là-bas, ils me prennent pour une blague, parce que les mecs de la Ligue de LOL se sont foutus de moi. Quoi.
Ouais. Donc. Et ça a eu pour effet aussi de te faire quitter, au bout d'un moment, tout simplement, Twitter. Tu avais décidé de fermer ton compte parce que c'était trop, j'imagine.
Ouais, fin 2013, après une énième vague qui, du coup, était un peu plus sévère que les autres. Je pense que beaucoup de gens le disent, mais en fait, quand on subit comme ça du harcèlement, c'est comme je te pince, et puis quand je t'ai pincé 1500 fois, tu vas avoir une petite marque et tu vas dire, en fait, j'en ai marre et je veux plus être pincée, quoi. Et effectivement, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, pourquoi je m'inflige ça, en fait ? Pourquoi je m'inflige d'aller sur un réseau où je sais qu'il y a des mecs qui m'attendent en sniper au coin de rue pour me tomber dessus et me balancer des trucs crypto-racistes en permanence, quoi ? Et c'est pas anodin en tant que jeune journaliste de dire ça, de dire je vais quitter Twitter, alors que Twitter c'est quand même un outil indispensable. Et sur le coup, je l'ai fait. A priori, il y a eu des gens qui ont fêté ça derrière. Mais en vrai, j'ai pas regretté pendant très longtemps. Là, je suis revenue récemment sur Twitter au moment où l'affaire a éclaté parce que je trouvais que c'était le moment opportun en fait. Partie à cause de la Ligue de LOL et je reviens à cause de la Ligue de LOL. Donc voilà, la boucle est bouclée quoi.
Moi, il y a une chose qui me frappe pour plein de raisons, qui m'interroge énormément à la fois sur moi et sur notre milieu, c'est de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu, alors que j'étais amené à fréquenter ces gens-là moi aussi dans les rédactions, à interagir socialement, à lier des liens d'amitié avec eux, mais de ne pas avoir connu tous ces mécanismes qui se mettaient en place derrière. Est-ce que toi aussi, tu as eu la sensation de ne pas pouvoir en parler autour de toi à des gens qui n'étaient pas forcément concernés directement, peut-être de peur qu'ils soient... qui fasse partie du truc sans le montrer, de peur que ça se retourne contre toi. Enfin, voilà. Est-ce que ça a aussi empêché le témoignage, quelque part, de ce harcèlement ?
Bah moi, bizarrement, j'en ai quand même pas mal parlé, notamment à mes copines féministes qui étaient soit sur Twitter, soit témoins, soit journalistes. Et j'en ai parlé, en fait. En revanche, j'ai jamais confronté les lolleurs en vrai. Et pourtant, j'ai été amenée, comme toi, à les croiser. Alors moi, j'en avais pas dans mes amis proches, mais je pense notamment à des gens que j'ai vus en soirée. Euh, et, Et en fait, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi j'ai pas confronté ces gens-là ? Parce que, alors, effectivement, je voyais bien qu'il y avait du harcèlement auprès de Capucine Pio, de Mathias Jean-Puyer, mais c'était pas des gens que je connaissais, on était un peu isolés. Et je savais pas, il y a toujours cette peur quand t'es victime de dire, en fait, si je viens défendre quelqu'un, bah, je vais me reprendre derrière une claque dans la figure et je vais reprendre une vague de harcèlement. Donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi le fait, ce que tu dis, j'ai pas vu, je savais pas parce que ces gens-là n'avaient pas la même attitude, c'est que je pense que Twitter c'était leur terrain de jeu en fait. Et après dans la vie, ils avaient une vie un peu comme tout le monde, ils avaient des femmes, des enfants, tout allait bien pour eux. Mais quand ils arrivaient sur Twitter, ils enfilaient leur masque de troll et ils se lâchaient. Et effectivement, ça m'étonne pas du tout que dans la vie de tous les jours, ils avaient des amis hors ligue du LOL. Et ça se passait bien pour eux. Mais c'est vrai que nous, en tant que journalistes, on était confrontés à... Quand on arrive dans une rédaction, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Est-ce que les gens connaissent ? Est-ce que les gens ne connaissent pas ? Est-ce qu'on peut raconter l'histoire ? Voilà, moi, j'en ai quand même parlé. Du coup, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de SMS de gens là, qui m'ont dit « Enfin, c'est sorti !» et tout. Donc,
Il y a un élément qui est très important dans tout ça et sur lequel insistent pas mal des gens qui ont été victimes et qui témoignent aujourd'hui, c'est que ces processus de harcèlement, ils ont empêché, en tout cas ils ont retardé l'émergence d'une parole féministe, déjà d'une part sur les réseaux sociaux, et aussi l'émergence de signatures, de journalistes qui maîtrisaient ces sujets. Et que ces sujets en plus ont été un peu cannibalisés parfois par les gens même qui les harcelaient sur ce terrain-là. J'imagine que vu de l'extérieur, ça devait être une source de frustration très très forte, voire de désespoir presque, même si peut-être le mot est fort, mais j'imagine que oui, ça devait ressembler à ça.
Ouais, c'était très très frustrant à voir. En fait, moi je dis, j'ai l'impression qu'ils nous ont coupé les ailes, en gros, parce que à partir du début des années 2010, c'est là où il y a eu un réveil de la conscience féministe. Moi, je situe souvent ça à l'affaire d'Esca, qui était en 2011, où vraiment j'ai commencé à me poser des questions et j'ai entendu ce que des gens disaient. J'étais déjà en rédaction et j'entendais des trucs et je me disais, mais attends, c'est pas possible. Et du coup, j'ai commencé à sérieusement faire des recherches sur le féminisme, à lire des livres, à m'informer. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de tweeter, en fait. Et à ce moment-là, c'était inaudible. Le féminisme, c'était un gros mot. Et eux, ce qui s'est passé avec ce boys club de la Ligue du LOL, c'est qu'à l'époque, c'était inaudible pour eux. Donc, ils ne comprenaient même pas qu'on prenne la parole sur ces sujets-là. Mais qui tu es pour me dire harcèlement, consentement et tout j'ai pas envie d'entendre ça. Donc, tais-toi, quoi. Et en fait, je pense que le cœur de la Ligue du LOL, c'était le fait qu'ils se plaçaient en décideurs du bon contenu et du mauvais contenu. Et à l'époque, le féminisme, l'antiracisme, c'était du mauvais contenu. Et qu'est-ce qu'on fait pour enlever le mauvais contenu ? On harcèle les gens qui le produisent. Et je pense que c'était vraiment ça, dans leur tête, leur manière de fonctionner. Et quand je dis qu'ils nous ont coupé les ailes, c'est qu'en fait... on n'a pas eu le temps de se chercher sur ce réseau. On n'a pas eu le temps de créer en fait ce qu'on voulait en termes de paroles féministes, comment on voulait présenter les choses. On n'a pas eu le temps de faire d'erreurs. En fait, ils arrivaient déjà en disant « Non, ce que tu dis, c'est de la merde. » Donc en fait, c'est déjà une erreur. Donc tu n'as pas le droit de chercher à avancer. Et du coup, ce qui est très très intéressant, c'est que ça, c'était 2010-2015, ce moment où la parole féministe était complètement écrasée. Et à partir de 2015... Hop, il y a eu un petit switch, les temps ont changé, les mentalités évoluent. Et là, on se dit, le féminisme devient hype, en fait. Là, ça a commencé à être un peu mainstream et tout. Et là, moi, c'est ça où je suis vraiment tombée de l'armoire quand j'ai vu des Vincent Glade commencer à produire du contenu sur le féminisme, à écrire des articles. Au moment de l'affaire Nadia Dame, un grand article sur Libération signé Vincent Glade sur comment fonctionnent ces groupes qui harcèlent les féministes. Ça, c'était, je crois, la pilule la plus difficile à avaler. Et je me rappelle aussi, ça, c'est un truc qui nous a beaucoup fait... beaucoup fait parler entre nous, c'est la tribune de soutien à Nadia Dame dans Libération signée par Alexandre Hervault et Vincent Glade, quoi. Là, on s'est dit, mais on marche sur la tête. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et en fait, je pense que c'est important parce que nous, ce contenu qu'on créait autour du féminisme au début des années 2010, il était gratuit. On faisait ça parce que ça nous tenait à cœur. On faisait ça parce qu'on lisait et qu'on voulait en parler. On voulait diffuser ces idées-là parce qu'on y croyait. Et on faisait ça sans être payé, on faisait ça sur Twitter. Et eux, derrière, font des articles pour lesquels ils sont rémunérés sur des sujets qu'ils ont écrasés à l'époque, mais dont ils ont quand même appris de nous. Ils ont vu les tweets, ils disent « j'y crois pas ». Puis après, finalement, ils font un article en reprenant les arguments qui avaient été évoqués par des personnes comme Daria Marx ou Valérie Ségé. Donc, c'est vrai que c'est très très problématique. C'est à la fois écraser la parole naissante progressiste féministe et en plus derrière reprendre à son compte les idées et le travail en étant payé et en prenant les postes. Voilà. Donc ouais, c'est un enjeu très très fort, je pense.
Tout au long du week-end, les témoignages s'accumulent sur Twitter essentiellement. Les victimes de la Ligue du LOL prennent la parole. Voici quelques-unes des histoires qu'elles y relatent. Daria Marx, blogueuse et autrice.
Ils n'avaient pas besoin d'excuses. Ils me harcelaient pour le plaisir, par ennui peut-être ou par concours de bites. J'étais grosse, j'étais une femme, j'étais féministe. Cela suffisait à les faire rire. Leur spécialité n'était pas le débat d'idées. Pas d'argumentation, pas de débat, pas même d'idées. Juste de la violence. Des insultes, des blagues, des photos volées et trafiquées, des tentatives d'intimidation, des menaces de viol, des menaces de mort, des menaces sur la sécurité, des menaces de divulguer mon adresse. Bref, ils se lançaient en meute contre moi et tous les autres suivaient. Le harcèlement a atteint son paroxysme quand j'ai eu l'idée funeste de créer une cagnotte pour mon anniversaire. Je commençais à aller mieux, mais ma maladie mentale ne me permettait toujours pas de prendre les transports. J'avais recommencé à travailler et j'avais peur de devoir arrêter par peur du métro. Si vous n'avez jamais été agoraphobe, vous aurez du mal à comprendre, renseignez-vous. J'ai donc sollicité mes proches pour m'aider à acheter un scooter et j'ai eu le malheur de partager une fois, une seule fois, le lien de cette cagnotte sur Twitter. J'ai reçu une déferlante de haine comme je n'en avais jamais connue. J'ai reçu des messages souhaitant ma mort, plusieurs, pendant des jours. Ils ont retrouvé mon numéro de téléphone, m'ont inscrit sur plusieurs sites internet. J'ai été harcelée des semaines, des nuits entières. J'ai été maltraitée par la Ligue du LOL et par tous ceux qui suivaient leur humour, au point que j'ai été arrêtée par mon psychiatre de l'époque. J'ai confié mon mot de passe Twitter à une amie pour ne plus rien voir, et j'ai pleuré, et je n'ai pas dormi, et je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter tout cela, et je me suis laissée aller à penser que je ne valais rien, qu'il fallait que je disparaisse. C'est ce qu'ils voulaient, j'allais les satisfaire, je n'en pouvais plus. Je me réveillais dans la nuit pour voir si le harcèlement avait cessé. Je me couchais avec des insultes. Je me réveillais avec 40 nouvelles mentions ordurières.
Florence Porcel, journaliste, s'adressant directement à David Doucet, membre de la Ligue, rédacteur en chef web Ozinrock, auteur d'un canular téléphonique à son encontre, encore disponible jusqu'à il y a peu sur Internet.
Régulièrement, comme je savais qui était derrière, j'ai pensé à porter plainte, mais je ne l'ai pas fait. Ça me semblait une montagne trop grande et je n'étais pas assez solide pour supporter le harcèlement en ligne qui ne manquerait pas d'aller avec. Parce qu'avant ce canular, pendant des années, ça allait de plus en plus loin dans la violence. Harcèlement en groupe sur Twitter, puis un photomontage. Toujours du harcèlement par tweet pour bien me faire comprendre que j'étais toujours surveillée. Puis 4 ou 5 de tes camarades qui sont venus m'entourer physiquement. Imagine ce que ça peut faire quand plusieurs hommes, harceleurs d'une tête de plus que toi, viennent t'entourer physiquement, sur mon lieu de travail. Puis me demander un service, puis ce canular, déjà humiliant et traumatisant de base, puis ensuite mis en ligne. Vous connaissiez mon nom, vous étiez venu jusqu'à mon lieu de travail, aviez pris la peine de trouver mon numéro de téléphone, c'était quoi la suite? C'était quoi, hein? Venir en groupe m'attendre en bas de chez moi? Pendant des années, j'ai eu cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, j'ai organisé ma vie, tous les aspects de celle-ci, en fonction de ce traumatisme. Tu vois, il résonne encore très fort aujourd'hui.
Lucille Bélan, journaliste.
La Ligue du LOL, c'est des années de harcèlement, une usurpation d'identité, des attaques basses et gratuites. Clairement, ça a défoncé ma confiance en moi et en mes capacités de journaliste. Résultat, en 2019, je suis stressée depuis que je sais que cette courte enquête est en cours, comme si j'étais accusée alors que je suis victime. Voilà l'influence que ces gens que je ne connais pour la plupart pas dans la vraie vie ont encore sur ma vie. Et eux, pendant ce temps-là, ils LOL.
Capucine Piau, blogueuse et entrepreneuse.
La Ligue du LOL m'a repérée et a commencé son travail de sape petit à petit. Montage vidéo et photos visant à se moquer de moi. Archivage des petites bêtises que j'avais pu tweeter pour me les ressortir systématiquement pendant des années. Critiques récurrentes sur mon apparence. Tout ça de façon régulière, gratuite, et en entraînant tout un tas de tweetos dans leur sillage malsain et dévastateur. Au début, je me suis dit que c'était un ou deux types pas gentils. J'ai répondu. Erreur, c'est ce qui leur a permis de m'identifier comme un de leurs joujoux favoris pendant un temps. Le poisson avait mordu à l'hameçon. Grâce au travail de démolition parfois quotidien de la Ligue du LOL, je suis devenue la cible de plusieurs attaques d'inconnus. L'enfer commençait. Ensuite, il y a eu les soirées tweetos à l'autobus dans le 11e à Paris. J'y allais avec des amis et aussi pour rencontrer dans la vraie vie des gens avec qui j'échangeais sympathiquement sur Twitter. Et puis aussi, Il y avait des types pas très intelligents, des journalistes parisiens, entre autres, qui se mettaient à poster des photos de moi lors de ces événements, parfois à mon insu, et pourquoi faire ? Et à se moquer de moi, en face à face. C'est alors que j'ai fait le lien. Et si ces types n'étaient pas tous un et même groupe qui échangeaient ensemble pour me traquer dans la vraie vie et en ligne ? Et si j'en parlais à d'autres ? Et la surprise, j'ai rencontré d'autres personnes dans le même cas que moi. À un moment, j'en suis arrivée à un stade où je me détestais, j'ai eu des idées sombres, à force de lire des saletés sur moi partout sur les réseaux, j'ai été convaincue que je ne valais rien. Ça a été très dur dans ma construction de jeune femme. L'un des personnages qui, je l'ai su après, était dans leur entourage et les côtoyait, avec qui j'avais eu une relation, m'a même fait croire qu'il avait le sida pour me faire peur et me laisser penser que je pourrais l'avoir. Des dingues. Je me suis retrouvée tremblante à faire les examens médicaux nécessaires. Pendant ce temps-là, la traque en ligne continuait. Ça a duré plusieurs années. J'ai mis ensuite plusieurs années à m'en remettre.
Capucine Pio mentionne également un projet de lettre que plusieurs des victimes de la Ligue du LOL ont voulu envoyer aux rédactions en 2010, qui a finalement été récupéré et moqué par les membres du groupe jusqu'à devenir un mème sur Twitter, un hashtag que tout le monde reprenait pour participer à la blague sans forcément savoir les racines de la chose. Parmi les témoignages aussi, quelques hommes comme Mathias Jambon-Puyer, alias Le Rayi, sur Twitter.
Tout le monde savait à l'époque, tant qu'il en était, que ce qu'il faisait. Les membres les moins virulents savaient ce que faisaient les membres les plus virulents. J'ai reçu des messages insultants des deux tiers des membres, ceux-là même qui se défendent d'avoir fait usage de comptes fake ou de ne pas avoir participé hors du groupe. J'ai, plusieurs années après, reçu régulièrement des pics de la part de membres, ceux-là même qui disent avoir quitté le groupe il y a bien longtemps. Tous, ou presque, mentent. J'ai pleuré, j'ai tremblé, j'ai vomi. J'ai demandé de l'aide à mes managers, à mes amis, à d'autres victimes, et ce texte ne parle qu'en mon nom, n'est qu'un ajout parmi d'autres. Mais je veux qu'ils témoignent de leur coordination, de leurs raisons et de leurs agissements. Je veux aussi exprimer de manière très claire que pour beaucoup d'entre eux, il n'y a ni prise de conscience ni empathie. J'ai testé tous les chemins de traverse, j'ai offert toutes les rédemptions possibles. J'ai attendu 8 ans des excuses qui ne sont jamais venues. Ces coupables ne sont pas raisonnables, on ne peut pas leur expliquer, on ne peut pas leur faire comprendre. Les virilistes, et malgré tout ce que j'ai espéré et tenté dans le temps, ne répondent qu'à une chose, la force, physique ou institutionnelle. La force est la seule chose qui rentre dans leur référentiel de compréhension du monde. Et c'est à ce titre qu'il faut, par la force, les punir. Leurs excuses ne valent rien.
Après les témoignages, vient le temps des excuses de certains des membres du groupe, dont les noms circulent désormais sur des listes postées sur le net. L'un après l'autre, ils postent des textes tentant de justifier leurs attitudes passées. En voici quelques extraits. Vincent Glade, journaliste. En créant ce groupe, j'ai créé un monstre qui m'a totalement échappé. En laissant faire tout ce qui s'est passé, je me suis rendu coupable des agissements des autres. J'ai laissé faire les membres les plus radicaux qui dépassaient très clairement l'humour pour verser dans le harcèlement. Je n'ai pas osé dire de manière claire que parfois vraiment nous allions trop loin. J'étais pris dans ce mouvement propre au groupe de mecs où l'on n'ose pas dire aux autres que non, on va trop loin. Ce serait passé pour un faible, un rabat-joie, un mec pas cool. Je ne l'ai pas fait ou je l'ai si peu fait. En tout cas, je n'ai jamais appuyé sur le bouton supprimer qui aurait été la seule chose à faire avec ce groupe. Alexandre Hervaux, journaliste. La vocation première et unique de ce groupe privé, comme tant d'autres, était d'échanger des liens cool, des potins et des plans de soirée entre journalistes, communicants, graphistes, informaticiens, auteurs, photographes, etc. Tous parmi les primos utilisateurs de Twitter. Cette ligue du LOL, dont le nom ironique ne saurait être pris au sérieux, n'a jamais eu pour but de coordonner des campagnes haineuses visant qui que ce soit. Mais il ne sert à rien de minimiser ou nier l'évidence. L'esprit de moquerie et de cynisme permanent du groupe a forcément influencé les actions de certains de ses membres plus borderline, notamment sous couvert d'anonymat, qui par effet boule de neige inspirait d'autres internautes extérieurs au groupe. David Doucet, rédacteur en chef web aux Inrock. J'ai fait partie de la Ligue du LOL durant 2 ans. J'ai quitté ce groupe il y a bientôt 6 ans. À l'époque, je venais de banlieue, je n'avais aucun contact sur Paris. Mon activité a essentiellement consisté à réaliser des fakes de célébrités à l'époque où Twitter n'en possédait aucune et m'a permis de briller aux yeux de gens que j'érigeais comme des modèles journalistiques. J'ai lu avec effroi les témoignages qui sont sortis. Je tiens à dire que je n'ai jamais réalisé de photomontage, pratiqué de raid ou participé aux soirées décrites. Cette libération de la parole m'a surtout fait prendre conscience que je comptais parmi les bourreaux. Durant cette période, j'ai en effet réalisé 2 canulars téléphoniques, dont celui raconté courageusement par Florence Porcel, où je me faisais passer pour un recruteur de la télé. Je mesure aujourd'hui la dégueulasserie de ces actes et je n'ai pas d'excuses pour cela. Je suis désolé. Guilhem Malissin, youtubeur et podcasteur. Ça correspondait à une époque où il était de bon ton sur Twitter de faire de l'humour noir, des blagues oppressives et de jouer au plus malin avec nos mots. J'adorais déjà le stand-up et, frustré de ne pas le pratiquer, je tuais mon envie de blagues sur les réseaux en me prenant pour ceux que j'adorais, sans réaliser que ce que j'écrivais pouvait être sexiste, grossophobe, homophobe et constituer du harcèlement. Pour autant, je n'ai jamais créé de faux comptes ni envoyé de messages anonymement. Toute ma timeline était lisible dans son ensemble. Entre-temps, j'ai évolué, du temps est passé, j'ai compris la différence entre une blague sur scène dans un micro et une blague sur Twitter. J'ai compris que les mots pouvaient oppresser. J'ai compris que le poids d'une interaction sur un réseau social, toute digitale qu'elle est, n'est rien de moins qu'une véritable interaction.
Mes tweets n'engageaient que moi et n'ont jamais été commandités par un quelconque groupe Facebook. Je n'avais pas conscience de harceler et j'en ai honte aujourd'hui. Je ne peux pas me mettre à la place de celles et ceux qui ont reçu ces messages. Celui qui fait du mal a toujours plus de facilité à oublier, à minorer son action. On vannait dans tous les sens, sans comprendre que celui ou celle qui en est la cible peut rester marqué à vie par l'échange. Ces excuses sont accueillies assez tièdement par les principales intéressées qui attendent plutôt des actes. C'est le cas depuis ce lundi 11 février, avec des décisions qui nous arrivent des différents médias employant les uns et les autres. Stéphane Desaulnois quitte la rédaction en chef du Tag Parfait et met le site en pause. Le studio de podcast Nouvelles Écoutes met fin à sa collaboration avec Guilhem Malicien. Brain Magazine fait de même avec Vincent Glade, qui est mis à pied par ailleurs par Libération à titre conservatoire, tout comme Alexandre Arvaux. Nous-mêmes à Binge Audio ne ferons plus appel à lui dans nos ciné. David Doucet, rédacteur en chef du Web des Inrocks, a également été mis à pied. Une procédure de licenciement pour faute grave est engagée contre lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse retomber l'histoire et qu'on attend la prochaine polémique ? Ou est-ce qu'on saisit cette occasion pour interroger nos pratiques, la manière dont fonctionnent les lieux de pouvoir, comme le sont les rédactions, et déconstruire les liens toxiques qui nous unissent encore bien trop souvent ? C'est ce que nous, on a décidé de faire. Ma camarade Victoire Toyon planche à un épisode XXL de son podcast Les couilles sur la table sur les racines et les mécanismes des groupes tels que la Ligue du LOL. Il sera mis en ligne à la fin de semaine et vous le retrouverez dans le fil de Programme B. Par ailleurs, l'existence de deux autres groupes de journalistes au comportement sexiste et agressif, l'un chez Vice et l'autre au Huffington Post, vient d'être révélée. Les affaires remontent respectivement à 2017 et 2018. Elles ont entraîné plusieurs licenciements, mais on découvre seulement aujourd'hui les raisons et les ressorts tristement similaires à ceux de la Ligue du LOL. Merci à Mélanie Wanga, à toutes celles et ceux qui ont témoigné. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et Juliette Livartowski, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.